Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5. Alors on est content de vous retrouver pour ce 36e épisode de cette émission. Aujourd'hui dans le studio, je suis avec Axel.
Bonjour tout le monde.
Et Pierrick.
Salut.
Et c'est Fred qui vous parle. Alors, pour cette émission début d'été, hein, on vous a concocté un petit programme. Alors... on va commencer par le ciel ce soir. Quelle surprise! Hein, mais bon, ça, c'est un peu toujours le cas dans notre émission parce qu'on veut garder le contact avec, avec le ciel, avec son observation directe. C'est quand même ça qui nous motive ici. Donc, un petit tour du ciel ce soir et de tout ce que vous pouvez observer en ce moment, la nuit. Ensuite, on va parler un petit peu de Carl Sagan. On passera un extrait de. D'un commentaire qu'il a fait sur une photo. Voilà, on vous en parlera un peu après. Et puis après la pause musicale, on terminera l'émission avec une petite discussion sur le droit de l'espace. Voilà, les lois qui pour l'instant régissent l'espace et son exploration. Voilà pour ce sommaire. Alors on va commencer avec le ciel ce soir. Axel, je t'écoute.
Oui, alors le ciel de ce mois de juillet qui va commencer, évidemment c'est le ciel d'été, avec, on en a déjà parlé dans l'émission, puisque depuis le temps que c'est la 36e comme tu le disais, mais donc évidemment il y a le triangle d'été, les trois premières étoiles que vous voyez apparaître le soir, qui ne sont pas encore vraiment au-dessus de nous, il faut attendre quelques semaines, mais on a bien ces trois étoiles, le triangle d'été, Vega, Deneb et Altaïr. Et en parlant d'Altaïr, je voulais vous parler, faire un petit focus aujourd'hui de la constellation de l'Aigle, sur la constellation de l'Aigle.
Je précise excuse-moi Axel, que ce triangle d'été n'est pas une constellation.
Oui.
On l'appelle comme ça parce qu'il est formé par trois étoiles qui sont très brillantes dans le ciel d'été, mais chacune des trois appartient à une constellation différente.
C'est ça. On a Vega qui est dans la Lyre, Deneb dans le Cygne, et là, en ce qui nous concerne, c'est Altaïr qui est dans l'Aigle. Altaïr qui veut dire l'aigle d'ailleurs en arabe.
Et qui sont vraiment dans la Voie lactée, qui sont vraiment dans le...
Ouais, la constellation du Cygne, dont fait partie Deneb, c'est une grande croix, on l'appelle parfois la croix du Nord, et elle est traversée dans toute sa longueur par la Voie lactée. C'est un signe qui...
Le Cygne vole dans la Voie lactée, quoi, exactement. Très clairement.
Ouais, qui est bien en zénith, enfin presque.
C'est ça.
Qui, voilà.
D'habitude je parle des planètes mais on va y revenir à la fin de ma petite chronique avec Pierrick. Et donc un petit focus sur l'Aigle, une constellation pas forcément très reconnaissable, en tout cas quand on la voit on pense pas à un aigle, moi je pense pas à un aigle, contrairement à d'autres qui parfois portent bien leur nom, mais qui a quand même trois étoiles assez reconnaissables, identifiables, qui sont alignées presque parfaitement. Parfois d'ailleurs dans mes soirées on me demande si c'est pas Orion qu'on voit là, la ceinture d'Orion. Et, c'est vrai que ça y fait penser, trois étoiles alignées assez proches comme ça, avec Altaïr au centre, l'étoile la plus brillante de cette constellation, et les deux autres à côté qui sont bien brillantes aussi. C'est une constellation qui est... Donc si vous repérez le triangle d'été, les trois étoiles les plus brillantes du ciel d'été, Altaïr c'est la plus basse, la plus sur l'horizon, la plus au sud. C'est juste au-dessus du Sagittaire. Et dans la mythologie, c'est fait partie des plus vieilles constellations, évidemment, repérées par Ptolémée, même avant, par Aratus de Sol, un astronome que je ne connaissais pas. On parle toujours de Ptolémée, mais là, il a été devancé pour une fois. Mais dans la mythologie grecque, elle représente parfois l'aigle de Zeus, ou parfois l'aigle du Caucase. Ça vous dit quelque chose, l'aigle du Caucase, c'est celui qui venait manger le foie de Prométhée qui était attaché à un caillou. Et l'aigle lui mangeait le foie à l'infini, comme le foie se régénère, tout ça.
Mais l'aigle, c'est un truc qu'on voit souvent. Les Romains, les nazis, ils sont toujours.
Oui, c'est vrai.
Ça revient souvent.
Symbole de conquête. et c'est Hercule qui vient libérer Prométhée en tuant l'aigle et tout ça. Parmi les objets qu'on peut observer dans cette constellation, je vais tricher un petit peu, puisque il y a des objets.
Comment ça ?
Il y a bien des objets, mais il n'y a pas d'objets Messier dans l'Aigle. Il y a des objets NGC, New General Catalogue, qui sont pour la plupart un peu plus difficiles d'accès pour les petits instruments, même si là on a des amas globulaires, On a une nébuleuse planétaire aussi en NGC. Mais moi, je me sers de l'aigle pour retrouver l'amas M11, l'amas du canard sauvage, donc un objet Messier, qui est concrètement dans l'écu de Sobieski, mais qui est une constellation pas très facile à trouver, pas très brillante. Donc je me sers d'Altaïr, et en remontant, on trouve assez facilement, même aux chercheurs, cet amas ouvert, M11, des canards sauvages, qui porte ce nom parce qu'il a été observé par un navigateur anglais avec sa longue vue, et ça, il a une forme un peu triangulaire, ça lui a rappelé le vol des canards en triangle. Et c'est vrai que quand on observe cet amas, il y a vraiment un angle marqué à 90 qui est reconnaissable. Voilà pour l'aigle. Et donc pour les planètes, il y a en ce moment un phénomène assez unique, assez rare. Je crois qu'on ne le reverra pas avant quelques centaines d'années ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, j'ai vu le chiffre. Et que Pierrick a observé ce matin même. Exactement. Hier matin, je ne sais plus. Et donc, je te laisse t'en parler mieux que nous. C'est un alignement de planètes assez spectaculaire puisqu'elles sont toutes là.
Et oui, enfin oui, toutes observables. Ouais, elles sont toutes là. Et cet alignement, il est, comme tu dis, il est exceptionnel dans le sens où il se reproduit que tous les, je ne sais plus combien d'années. Mais en tout cas, voilà, c'est un moment à aller voir quand même. Donc, je suis fatigué. Je me suis levé à 4 heures pour voir ça.
Et oui, c'est ça, c'est vraiment au matin. Mais...
Et encore, c'était un peu limite parce que c'était vraiment l'aube et il n'y avait plus que ça visible quasiment. Donc, il faut vraiment se lever tôt. Et, j'ai passé une nuit un peu chaotique et quand même, je me suis rappelé de ça et je suis allé voir ça en sortant de chez moi, hein, tout simplement. Et j'ai vu cet alignement. Donc il y a Vénus qui est tout en haut, qui est vraiment assez haute dans le ciel, qui brille fort. Ensuite, il y a Saturne et Jupiter pas très loin. Et tout en bas, plus bas, il y a Mars. Donc ça, ça fait vraiment une ligne droite. Mm. C'est vraiment sur le plan de l'écliptique, sur le plan du système solaire. Il doit y avoir Mercure un peu en dessous, mais je n'ai pas pu l'observer.
Ouais, Mercure un peu après, mais même les deux planètes pas visibles à l'œil nu, Uranus, oui, et Neptune, sont aussi dans l'alignement en ce moment. Ouais.
Elles sont là, mais on les voit qu'au télescope.
Et la semaine dernière, on avait même la Lune qui se baladait dans cet alignement.
Ah ouais. Donc si on arrive à les repérer, c'est vraiment chouette de se dire, hein, bah voilà, les planètes du système solaire sont là, sont visibles en même temps, au même moment. Donc c'est assez rare. Et quand j'ai vu ça, je me suis un peu focalisé sur mon ressenti. Et j'ai eu une certaine forme de bien-être qui m'est venue, une certaine forme de sérénité, quelque chose qui est un peu immuable là-haut, qui est toujours là, qui revient, qui est cyclique. Même si on sait que ça bouge sur des temps astronomiques, oui. En tout cas pour nous, l'espèce humaine, il y a toujours un peu la même chose qui se passe. Donc ça fait du bien de voir que dans ce monde actuel, qui est extrêmement changeant, on sent un basculement un peu du monde d'un côté ou d'un autre, mais en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Et donc de voir ça, j'ai trouvé ça sympa et ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, l'être humain, il doit voir ça depuis tout le temps, en fait.
Oui, c'est ça,
depuis qu'il existe, il doit observer et voir ses alignements. Ou pas. Et donc c'était agréable. Et ça m'a même donné de l'espoir. Je me suis dit, il y a quelque chose de cyclique, il y a quelque chose de
stable.
Ouais, de stable. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui vient nous sauver de là-haut, j'en sais rien, un truc un peu mystique dans tout ça. Et du coup, ça m'a fait. Ça m'a apaisé. Je me suis un peu relâché. Faut se lever tôt quand même, et c'était un peu la tête dans le cul, hein, entre guillemets. Mais du coup, ça fait un apaisement de le voir, et ça fait du bien. Et donc, retrouvez-nous le 23 juillet pour venir observer avec nous et vous détendre et vous faire du bien entre nous, observer les étoiles. Donc je le rappelle, hein, le 23 juillet.
On en profite pour vous faire un petit rappel là-dessus. Le 23 juillet, à Marignac. Marignac fête les étoiles, donc une grande après-midi et soirée d'astronomie, grand public pour tout le monde, venir découvrir, il y aura des conférences, il y aura de quoi animer les enfants, il y aura aussi évidemment des télescopes, il y aura à manger, il y aura à boire, Voilà. Donc on vous invite. De toute façon, vous aurez vite l'occasion de voir les affiches qu'on va coller partout
autour de dès demain.
Voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais, Pierrick, oui, enfin ce sentiment de bien-être qu'on peut et d'apaisement que tu décris, moi c'est aussi des choses que parfois je peux ressentir même souvent en regardant le ciel. Et c'est vrai que ça procure ça. Alors je sais pas pour moi si c'est lié au fait que ce soit cyclique, que ça rassure comme quelque chose qui est toujours là par rapport à ce qui bouge. Moi, il y a aussi, je sais pas, ce côté, déjà, c'est beau, en fait, tout simplement.
Ah oui,
et
oui.
Le simple fait, en fait, de voir quelque chose de beau, en fait, ça fait du bien.
C'est vrai.
Et gratuit.
C'est gratuit, en plus. Il y a un côté un peu précieux, au sens où, effectivement, voir les quatre planètes d'un coup, ça ne m'est jamais arrivé, je crois. Ouais. Donc, c'est quand même une expérience assez intense. Et puis, de savoir dans un coin de notre tête que ces points lumineux qu'on voit là, en fait, c'est des planètes, c'est des petits mondes.
Oui, c'est ça aussi.
Et puis, entre guillemets, c'est les nôtres, quoi. C'est le système solaire, c'est chez nous, quoi.
Ouais,
même si on n'est pas encore capable d'y aller, c'est les voisins, quoi. Donc, avoir cette proximité, enfin, ça les rend presque proches, en fait.
Je sais pas, oui, il y a un côté comme ça. Proximité, ouais, c'est chez nous, ah, c'est là, c'est pas loin.
C'est vrai que c'est... C'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas beaucoup forcément mettre des mots dessus, mais on sent que ça vient nous toucher assez profondément, en fait, dans ce qu'on peut...
Puis ça a l'air de rien, hein, ces quatre petits points dans le ciel, c'est pas foufou, mais en fait, c'est exceptionnel.
Oui.
Donc, voilà. Et du coup, on voulait vous passer un petit message de Carl Sagan, alors qui normalement est en anglais, mais là, on vous a sorti une traduction en français. Mais donc Carl Sagan, c'est un grand astronome qui est mort, hein, qui est décédé du XXe siècle. Mais en tout cas, il a sorti ce discours au moment où Voyager, donc la sonde Voyager, la sonde exceptionnelle Voyager qui a exploré du coup tout ce système solaire et toutes ces planètes dont on parle, la première à avoir fait ça et la seule pour l'instant, en partie, à un moment donné dans son exploration, ils l'ont retourné.
Mais c'était d'ailleurs une idée de Carl Sagan. C'est lui qui a insisté auprès de la NASA pour que ce n'était pas prévu dans la mission qu'elle se retourne pour prendre en photo la Terre. Et c'est lui qui a insisté, qui a dit c'est une chance qu'on ait ça aussi loin. Et voilà, il a dû insister parce qu'évidemment, ça consommait du carburant de la faire se retourner.
Ouais.
Ce n'était pas prévu, mais en insistant, il a réussi à réaliser cette image.
Et c'est assez exceptionnel. Du coup, il y a donc la sonde qui était dirigée vers l'infini, vers l'espace, pas du tout vers nous, au contraire, à l'opposé de la Terre, la faire se retourner et prendre une photo de là où elle venait, donc de la Terre. Mm. Et donc, ils ont pris une photo, et sur cette photo apparaît un petit point bleu pâle. Et de cette photo, il a sorti un discours, un poème, je ne sais pas comment dire. Et je vous propose de l'écouter par la suite, et on revient après.
C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur ce petit point se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solitaire, enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue.
Donc c'était Carl Sagan qui nous parlait, donc qui nous parlait de ce qu'il éprouvait en voyant cette photo prise par la sonde Voyager depuis le fin fond du système solaire et qui s'est retournée pour photographier la Terre. Donc il apparaît comme un mince disque, un petit disque bleu.
Oui, en fait, de la même façon qu'on voit en ce moment les planètes qui sont juste un point dans le ciel. Et... C'est la même impression que à cette distance en regardant la Terre. C'est un point comme ça, on sait qu'il se passe des choses, mais on sait que c'est un monde, mais vu de là-bas, c'est qu'un point. Et c'est vrai qu'il. Donc là, c'est un doublage français, hein, que vous avez entendu. Je vous invite à aller chercher le discours original, parce que la voix de Carl Sagan, c'est quand même quelque chose. Et d'ailleurs, toute son œuvre, c'était un super vulgarisateur et. Philosophe, en plus d'avoir des connaissances évidemment en astronomie, en astrophysique. Il a fait beaucoup pour la vulgarisation des sciences.
En astronomie, ouais, il a touché du monde, je pense.
Il avait une émission télé, c'était un petit peu le Fred et Jamy des États-Unis, mais dédié à l'astronomie. Quoi.
Dans les années 80, non
c'est, ouais, c'est ça.
Et, c'est aussi un auteur de science-fiction.
Ah ouais.
Il a écrit des bouquins, Carl Sagan.
Oui. Mais c'est vrai qu'il dit, donc évidemment, on vous invite à aller voir cette image, elle illustrera le podcast de cette 36e émission de l'étoile polaire. Ce pâle point bleu, elle s'appelle l'image The Pale Blue Dot. Et comme il dit, l'astronomie, on dit que ça amène à l'humilité. C'est vrai que je voulais le dire aussi quand tu parlais de ton ressenti en voyant les planètes. Je trouve que ça amène à un recul sur les événements et aussi sur nos vies propres, personnelles.
Ça amène un recul et ça... Après, en discutant d'astronomie, parfois aussi, il y a des gens qui disent que ça leur fait peur.
Ouais.
Cette immensité, en fait, ce grand vide, le fait que justement on soit un petit point comme ça, perdu au milieu de l'espace, en fait, quand on en discute, on réalise qu'il y a quand même pas mal de gens que ça angoisse.
Oui, je l'ai déjà dit, je crois, une belle phrase de Blaise Pascal qui dit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.
» Donc il y a ça.
Après, ce qui est intéressant, c'est que ça met un peu tout le monde au même niveau. Il
ouais.
n'y a pas de... Il n'y a plus de chef. On est un peu tous pareils quand on observe. Et ça, c'est toujours... En tout cas, entre astronomes, on voit que ceux qui ont envie de partager, on est tous... On partage ça avec grand plaisir Et humilité, ouais, comme il dit.
Mais c'est sûr que, ouais, vu du ciel, bon, bah, évidemment, toutes les notions, bah, il en parle, hein, des notions un peu de politique, de conflits régionaux, ou, bon, tout ça devient complètement absurde.
Ah, c'est clair. Ouais.
Ça, c'est sûr. Et évidemment, il débouche aussi sur une forme d'écologie, hein, de préserver la planète. Ouais, ça, c'est clair. Ben, moi, je sais que c'est aussi une des motivations assez profonde pour moi d'essayer de faire partager l'astronomie aux gens, en fait. Parce que, bah déjà, parce que ça me plaît, mais aussi parce que sous-jacent à tout ça, bien au-delà des idées scientifiques, en fait, l'astronomie, pour moi, elle conduit nécessairement à une forme de... un peu d'élévation de conscience, quoi, au moins de relativiser les choses, de voir où on est, de voir qu'on est une petite planète, etc., etc., qu'il y en a d'autres. Enfin, tout ce qu'on vient de dire avant.
Oui, et qu'on n'a que celle-là.
Qu'on n'a que celle-là, etc. Et puis aussi d'être aussi sensible à la beauté, à la beauté qui nous entoure. Je trouve que l'astro, ça conduit vers ça, en fait. En tout cas, ça tend vers ça. Donc je me dis, quelque part, plus il y a de monde qui fait d'astro, et mieux peut-être on peut se porter. Ça ne va pas résoudre vraiment les problèmes, mais non. Ça peut aider à ce que l'état d'esprit évolue un peu. Quoi. Ouais.
À les appréhender différemment.
Et surtout d'amener ça d'une façon en fait, où c'est chacun qui, par son ressenti, va y venir. Ce n'est pas une doctrine à démontrer ou convaincre. Il ne s'agit pas de convaincre, en fait. Il s'agit plus d'ouvrir à une sensibilité.
C'est vrai.
Que de là, la personne, en fait, fait son chemin comme nous. Hein, et voilà.
Comme chacun de nous, ouais. Recevoir tous ces petits photons qui nous arrivent dans l'œil, grain par grain, c'est quand même un sacré... qui ont voyagé à des années-lumière de nous, c'est quand même quelque chose de magique, je trouve.
Ouais, et puis c'est... ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'il y a, cette observation directe, en fait, une galaxie ou n'importe quoi, ou les planètes, hein, sans forcément aller chercher l'instrument d'optique. Et je reviens à ça, mais tout de suite, il y a cette sensation de beauté qui apparaît. Mmh. Et on sent que c'est des images qui nous émeuvent quelque part, même un peu ce que tu disais sur l'alignement des planètes. Tu peux pas trop mettre de mots dessus, mais tu sens que ça te brasse, quoi. Mmh. Et quand même, et ce que je trouve chouette, en fait, c'est que tu peux te poser la question de savoir mais qu'est-ce que je regarde, essayer de comprendre, essayer de rentrer dans les modèles scientifiques, dans les choses comme ça. Mais en fait, tu n'es pas obligé.
Oui, c'est ça.
Tu peux aussi juste...
Garder le beau, la beauté.
Regarder et trouver ça super beau et pas forcément t'intéresser à l'astrophysique réellement qui est derrière. Et c'est très bien aussi.
Ouais, c'est clair.
C'est vrai.
Bon, on vous invite à observer.
On revient encore.
À venir observer avec nous le 23 juillet à Marignac.
Ok. Yes. Et ben, on va peut-être faire une pause musicale.
Ouais.
Et puis on se retrouve après pour la suite de l'émission.
Mm-hmm. On écoute Mark Lanegan avec le morceau The Gravedigger's Song. Through my heart flows sleep, and the dark.
Et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDVOI. Alors, on va continuer notre émission avec la dernière partie. Là, cette semaine, j'avais envie de vous parler de droit. Le droit au sens les lois. Mm-hmm. Donc là, j'ai puisé en fait les informations que je vais vous communiquer dans une petite revue qui s'appelle « Revue du droit insolite ».
Okay.
Alors, c'est le numéro 1 de cette revue qui est paru l'année dernière. On a un numéro par an.
C'est un gros numéro. Enfin,
ouais,
je vois le bouquin.
C'est des juristes, hein, que des juristes, okay, qui ont décidé de faire cette revue et de prendre un thème un peu, alors, ce qu'un juriste appelle insolite. Hein, donc
oui.
Selon des critères de juriste. Et donc, celui-là s'appelle « Espace et droit ». Donc, il y a une série d'articles pour présenter un peu le cadre légal, en fait, de l'espace. Et je trouvais ça assez intéressant quand même de voir un peu, surtout au point où on en est maintenant. C'est-à-dire que là, quand même, on est allé sur la Lune, on a envoyé tout un tas de trucs autour de la Terre. Mais on a ces projets quand même, hein, d'aller évidemment faire une base sur la Lune. Ça, c'est reparti. Il y a des chances que ça se fasse quand même d'ici peut-être les 20 ou 30 prochaines années, je ne sais pas. L'idée d'installer une base sur Mars, enfin bon, ces idées-là, elles sont en cours. Et donc de voir un peu ce qu'on avait pour l'instant comme cadre légal par rapport à tout ça. Alors, le fondement du droit de l'espace, c'est un truc qui s'appelle le traité de l'espace. Alors celui-là, il date de 1967 et lui...
c'est son surnom. Tu l'as le nom entier ?
Non.
Le vrai nom, c'est le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
Ouais, bon, ça, d'accord.
Autrement dit, traité de l'espace.
Ouais, traité de l'espace. Donc ensuite, ça c'est vraiment la grosse base. Et ensuite, il y a quatre plus petites conventions. Donc l'accord sur les astronautes, ça va plus concerner le sauvetage et le retour des astronautes. Okay. La convention sur la responsabilité, ça, c'est, ça, on va en reparler un peu, ça fait partie des choses sur la loi. La convention sur l'immatriculation, donc ça, c'est tous les objets en fait, qu'on envoie dans l'espace doivent être immatriculés et répertoriés. Mm-hmm. Et pour finir, l'accord sur la Lune, qui est assez important.
Ouais.
En réalité, les deux gros textes légaux, c'est le traité de l'espace et l'accord sur la Lune. C'est ça. Et l'accord sur la Lune, il date de 1979, mais n'a pas été ratifié par tout le monde. On verra aussi pourquoi.
Puisqu'à la base, il y a combien de signataires c'était, parce qu'on était en 67, c'est ceux qui pouvaient accéder à l'espace à l'époque, donc États-Unis, Russie, enfin URSS.
Ouais, je sais pas exactement si c'est uniquement ceux qui pouvaient accéder à l'espace ou si c'est une sorte de principe de base en fait pour tout le monde. Je sais pas qui a participé.
Là, je crois que l'original, le premier signataire, c'était eux, parce que c'était eux qui pouvaient aller dans l'espace. Mmh. Depuis, d'autres pays l'ont signé aussi.
Et voilà. Donc, la base du truc, c'est quand même de dire que l'espace, en fait, qu'il n'y a pas de propriété dans l'espace. C'est-à-dire que c'est un principe de base qu'on ne peut pas s'approprier une portion de l'espace.
Même la Lune.
Ouais, okay. Donc, en fait, toutes les formes de propriété sont interdites.
D'accord.
En fait, il y a deux axes sur lesquels je vais un peu vous présenter ça. C'est d'une part le côté propriété, parce que c'est quand même assez...
Tu ne peux pas acheter un bout de lune et te faire une petite maison tranquille.
Non, voilà. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas... Voilà, le principe de non-appropriation de l'espace et des corps célestes. Donc ça, c'est
ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux.
Vraiment importante. Et... voilà, mais alors c'est là qu'en fait que je trouve ça marrant ça, dans toutes ces histoires de ce qui m'a un peu frappé dans toutes ces histoires de droit de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a un cadre toujours très bienveillant, très pacifique, etc. Mais en réalité, on voit que on peut faire un peu ce qu'on veut.
Ouais, on peut s'arranger
parce
un peu.
Parce que par exemple, donc ok, on n'a pas la propriété privée, mais certains États considèrent que le principe de non-appropriation ne concerne pas les ressources, que donc j'ai le droit d'aller exploiter des ressources sur un astéroïde ou sur la Lune.
Sans que ça t'appartienne.
Donc, en réalité, ils ont adopté des lois qui autorisent l'exploitation commerciale des ressources des corps célestes et son appropriation par des personnes privées, mais sans donner le droit de propriété sur le sol ou le sous-sol. Donc, vous voyez, ça commence, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé à poser le pied là-haut, en fait. Que déjà...
Il y en a, ils se sont dit... Hop, hop, hop.
Que déjà, toutes les magouilles... Non, mais c'est ça qui est hallucinant. En fait. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler, en fait. C'est-à-dire, voilà, on n'a pas le droit de s'approprier ça, ça et ça. OK, très bien. Ouais, mais quand même, j'ai le droit d'aller exploiter ses ressources. Bon, je ne comprends pas trop la logique.
Oui. Tu vois.
Et d'autre part, c'est pareil pour les bases spatiales. Est-ce qu'on a le droit d'installer une base ou ce qu'on avait appelé une zone de sécurité? Eh bien, la réponse est oui.
Okay.
Donc, en gros, je peux installer une base tant que je n'interdis pas la liberté de circulation.
Ok.
Une base pour tout le monde, quoi. En gros,
donc, c'est-à-dire... Non, mais là encore, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que oui, vous avez le droit de vous faire des bases, mais à condition que ça n'entrave pas la liberté de circulation. Et évidemment, la base ne vous appartient pas, puisque vous n'avez pas le droit de vous approprier l'espace. Mais vous avez quand même le droit de faire une base, où, de façon claire, les autres États ne pourront pas rentrer. Enfin,
Net. Donc, dans le concret, voilà. Ça risque d'être un beau bordel.
Ouais. Et après, quand tu regardes, il y a aussi un autre thème qui est intéressant, c'est la militarisation.
Ah oui.
Donc, il y a ce qu'on... Ils disent, les corps célestes sont sanctuarisés. Attention, c'est le terme. Ce sont des sanctuaires. Ça veut dire qu'aucune activité militaire ne peut y être conduite. Sauf que...
Pourtant, ils ont déjà envoyé des mitraillettes dans l'espace.
Ouais, justement. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que tu peux quand même te faire une base, mais à condition que ce soit dans des buts pacifiques. Donc là encore, c'est complètement délirant, en fait, parce que on est en fait dans des contradictions permanentes, en fait. Et par exemple, tu n'as pas le droit de mettre des armes de destruction massive dans l'espace, mais tu as le droit d'en mettre en orbite. Tu as le droit de mettre des armes en orbite.
Quoi, de les stocker?
Tu as le droit de les mettre en orbite. En fait, tu as le droit de mettre des armes dans l'espace tant qu'elles ne sont pas utilisées à des fins agressives. Non mais
c'est vrai que...
Elle est pas mal, celle-là.
C'est écrit, quoi. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser des armes de façon agressive. Mais si tu mets des armes en orbite, par exemple sur une orbite géostationnaire, ça, tu as le droit de le faire.
Okay.
Parce que ça peut être de la défense. C'est pour défendre ton
territoire. Oui, c'est pas agressif. Ouais.
C'est pas agressif.
Oui, oui.
Hein,
mais c'est vrai.
Ben voilà.
Mais c'est vrai que ça c'est l'article 4 du traité. Ça interdit la mise en place d'armes nucléaires ou de destruction massive dans l'espace. Et on pourrait penser qu'ils ont pinaillé pour signer ça à l'époque. Et en fait, non, pas du tout. C'est limite l'article le plus facile à signer. Parce que, en fait, aujourd'hui, ça a peut-être changé, mais. À l'époque, amener une arme nucléaire là-haut, c'était très compliqué, dangereux, trop visible, et du coup, il n'y a plus d'effet de surprise, tout ça, et du coup, ils ont dit oui, ok, ça, on signe. Mais bon, aujourd'hui, ça a peut-être changé, puis voilà, comme tu disais, ils peuvent toujours s'arranger.
Caché dans un satellite de météo, ils ont mis.
Oui.
Donc voilà, et tout est comme ça. Donc voilà, là, je vois, en revanche, ne sont pas interdits. Dès lors qu'ils ne sont pas réalisés à des fins agressives, le passage à travers l'espace de missiles porteurs d'armes de destruction massive. Donc tu peux quand même faire transiter des armes nucléaires à travers l'espace. Tant qu'elles transitent, ça va. Alors, bon,
pour se foutre sur la gueule,
c'est pas trop,
quelques kilomètres plus loin.
Sinon, tu peux les faire transiter en permanence. Ah non, mais elles transitent. Tu vois.
Ouais, c'est ça.
Tu peux placer sur orbite des armes conventionnelles et tu peux essayer des armes.
Ah, des conventionnelles, t'as le droit.
De placer sur orbite des armes conventionnelles, bah oui.
J'ai déjà entendu que les Russes, dans les premières stations orbitales, ils avaient mis des mitrailleuses.
Oui.
Non, mais là, il y a des lance-missiles de partout. Enfin, tout le bouclier, la guerre des étoiles, le projet de Reagan.
Ouais, anti-missiles atomiques. Ouais.
Ça, ça existe, en fait. Donc, il y a déjà tout un tas de missiles. En fait, il y a plein d'armes qui sont dans l'espace. Quoi. Et ils peuvent aussi tester des armes conventionnelles. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de faire exploser des missiles. Ça, tu as le droit.
Mais pas sur les corps célestes, je crois.
Non, les corps célestes sont sanctuaires.
Ouais, c'est ça. Dans l'espace, oui, mais pas sur la Lune.
Alors après, tu peux te poser la question, est-ce que tu as le droit de faire des expériences militaires? Ce sont des expériences.
Oui, une opération militaire, comme on a vu récemment.
Voilà. Une opération spéciale. Star Wars dans l'espace.
Et voilà. Et en fait, en termes de loi, c'est à peu près tout. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'organisme international qui est dédié aux activités spatiales. Il n'y a pas un truc qui centralise tout.
Ouais. L'ONU n'a pas un bureau, genre...
Non.
Non.
Je crois pas.
Il n'y a pas, en fait. Et là, on est vraiment dans un truc qui est assez récent aussi, hein, l'exploration spatiale.
Ouais, nous, on est quand même en 2022, ça date de 67.
Ouais.
Et depuis.
Le bouquin, lui, il date de cette année. Hein, donc ça veut dire, là, les enfants, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus récent.
Ouais, ouais.
En fait,
on voit bien que comme Elon Musk et SpaceX envoient des multitudes de satellites et qui bougent l'observation, et, bon, il a le droit, quoi. Il y a pas de.
Et ben ça aussi, justement, il y a des parce qu'en fait le droit de l'espace, ça devient une discipline quand même du droit international où il y a quand même des gens qui commencent à se parce qu'il y a de l'argent en jeu, quoi, clairement.
Ouais, ouais.
Et donc il y a aussi des gens qui disent justement on peut utiliser. Les lois qu'on a pour empêcher Muns de faire ce qu'il fait, en particulier en fait en disant qu'il va restreindre l'accès à l'espace en saturant les orbites, avec le risque aussi, tu vois, on en a déjà parlé, mais s'il commence à y en avoir un satellite qui explose, qui peut faire exploser tous les autres et qu'on se retrouve avec un nuage de boulons et de débris en tout genre autour de la Terre, on pourra plus sortir.
C'est ça, parce que je crois le premier article, c'est ça garantit le libre accès à l'espace par tous les États.
Ouais.
Si quelqu'un commence à mettre trop de trucs et qu'on a fait de place pour monter. Ouais.
Donc d'ailleurs, ils en sont, j'ai appris ça aussi, ils en sont à étudier l'idée d'une orbite un peu cimetière pour désengorger en particulier l'orbite géostationnaire. En fait,
ça existe déjà,
De descendre en fait, sur des orbites, des orbites poubelles. De monter,
C'est ça. Oui, puisque les satellites assez proche de la Terre, à quelques centaines de kilomètres. En fin de vie, en général, ils sont désorbités et désintégrés par l'atmosphère de la Terre. Mais les géostationnaires, qui sont à 36 000, eux, ils n'ont plus assez de carburant en fin de carrière pour les désorbiter. Et donc, ils gardent juste assez pour les mettre un peu plus haut. Et là, il y a déjà une orbite parking. Poubelle parking.
Poubelle.
Donc, voilà.
Décharge. Donc, c'était. Il n'y a pas vraiment de tri encore.
Pas encore. D'un côté les Russes, de l'autre les Russes. Et il y a donc voilà, c'était ça en fait. Surtout que j'avais envie de ce dont j'avais envie de parler, c'est de montrer en fait qu'il y a très peu d'encadrement de loi en fait en ce qui concerne l'espace, qu'on n'a pas vraiment commencé à y aller et qu'en fait on voit quand même dans les prémices, en gros que de quoi on parle en fait. On parle d'armement, on parle d'exploitation des ressources, que directement le reste on s'en fout un petit peu en fait, et tout orienté là-dessus avec des lois très générales, très très hypocrites, de bons principes et tout, et qu'au final derrière elles sont suffisamment floues. De toute façon, c'est pas des lois, c'est des traités qui sont plus ou moins signés d'ailleurs selon par exemple, les États-Unis n'ont jamais signé l'accord sur la Lune par exemple. Qui est celui qui dit qu'on ne peut pas exploiter les ressources, etc. Donc il y a pas mal de façons en fait de tourner autour, et puis de toute façon il n'y a aucune entre guillemets sanction, répression, sanction si les gens se mettent à faire autrement. En fait, on en a encore un stade un petit peu far west, quoi, je trouve.
Ouais, c'est ce que j'allais
dire.
Les
mecs vont y aller et vont faire un peu comme ils voudront.
Alors, il y a quand même que je trouvais intéressant. Je l'ai sous les yeux. L'article 6 qui institue une responsabilité des États pour les activités commises dans l'espace, non seulement par l'État, mais aussi par les boîtes privées. C'est-à-dire, concrètement, il y a quelques mois, la Russie, alors là c'était l'État, a détruit un de ses propres satellites pour faire un test, savoir s'ils pouvaient détruire un satellite. Bon, ils l'ont fait, ils ont détruit un de leurs satellites. Ça a fait plein de débris, évidemment ça peut poser des problèmes. Alors tant que ça ne pose pas de problème, ils ne craignent rien. Si ça endommage un satellite, je ne sais pas ce qui se passe, mais admettons qu'il y ait un débris du satellite qui tombe sur Terre et qui endommage quelque chose. Un bout de satellite russe qui arrive en France, qui détruit une maison. Bon, et ben là, c'est la Russie qui est responsable. Encore faut-il prouver que le débris, c'est bien le leur. Alors ça, il y a un organisme indépendant qui traque tous les débris. Et grâce à eux, on pourrait savoir si ça peut venir de lui ou pas. Mais bon, ça reste encore à déterminer. Mais c'est aussi pour les organismes privés. Donc si Elon Musk fait une connerie qui a une répercussion sur Terre, c'est les États-Unis qui sont responsables. Et c'est pas Elon Musk.
C'est le principe de responsabilité. Et en fait, c'est ce qui vient avec celui d'immatriculation.
Ouais,
c'est ce que j'ai mentionné. C'est-à-dire que tout vaisseau spatial doit être immatriculé. Tout objet spatial doit être immatriculé. Et l'immatriculation ne peut être faite que par un État.
Ouais.
Et même si s'il y a plusieurs États, bah, c'est un qui doit immatriculer et c'est lui qui sera responsable.
Ah, ouais.
Et effectivement, un privé, pour l'instant, ne peut pas immatriculer
un
véhicule. En tout cas, il ne me semble pas. Mmh. Et donc, comme tu dis, c'est les États-Unis qui sont responsables si Elon Musk a des problèmes, en fait. Ouais. Ce sera l'État.
Ouais.
Voilà.
Un peu comme les voitures au final. C'est
ça, ils vont probablement changer la loi à mesure où ça va se développer. Parce
bien
que
sûr,
je pense que. Enfin, des trucs comme Minsk.
Oui, à l'époque,
ça n'existait pas.
Envisageable.
Il y a un autre domaine aussi où ils vont devoir faire des ajustements par rapport à la loi. C'est par rapport aux gens qu'on envoie dans l'espace. Parce que jusqu'à présent, c'est tous des cosmonautes, sont considérés comme des envoyés de l'humanité.
Okay.
Donc voilà, ils ont un statut. De toute façon, en gros, dans l'espace, il y a soit des envoyés de l'humanité, soit des vaisseaux. Enfin, en gros, les deux catégories légales, il n'y a rien d'autre, en fait.
Très bien.
Et effectivement, cette problème de responsabilité, il est quand même important. Mais,
En parlant des astronautes, cosmonautes ou autre label, il y a un article, je crois, qui précise que que les États doivent porter assistance à une personne en danger dans l'espace, même s'ils ne dépendent pas de leur nationalité, de leur pays. Et évidemment, s'ils peuvent, quoi. Voilà, mais il y a ça. Moi, j'aime bien ce côté. C'est un peu en contradiction avec tout ce que tu viens de dire, mais dans l'exploration spatiale, il y a un côté uni.
C'est un peu comme les marins, quoi. Tu vois, c'est aussi, il y a un bateau en détresse, quelle que soit sa nationalité, tu es censé aller lui porter secours.
Mais c'est vrai qu'il y a énormément encore aujourd'hui de collaboration entre les États. Enfin, en termes de diplomatie, l'exploration spatiale, je pense qu'elle a un rôle d'unicité, peut-être pas hyper important, mais qui est quand même là.
Bon, on voit bien que la Chine fait ça dans son coin.
Ah oui, bah alors la Chine, c'est un peu nouveau, mais la Russie commence à vouloir être indépendante, mais depuis 50 ans, depuis 30 ans, il y a eu l'ISS qui est quand même international, où tout le monde a collaboré dans la bonne humeur. Quoi.
Là, tu vois, il y a ExoMars, le rover européen russe, pour aller sur Mars.
Ouais.
Il devait partir là,
avec la guerre.
Avec la guerre, machin, il ne part pas du tout. Et je ne sais même pas si un jour il va partir, donc... Tout ça, ça peut partir en...
Bien sûr, c'est pour ça que je dis ça.
Ça tient pas, quoi.
C'est pas le ciment absolu, quoi, mais je pense que ça peut aider quand même. En termes de diplomatie internationale.
Oui, c'est vrai que l'ISS était quelque chose de toujours. Hein,
ça aide, parce que pour l'instant, on est encore un peu en mode... c'est les débuts, on est un peu en mode découvert. Donc c'est un peu... c'est comme les marins, quoi. On est dans un environnement hostile qui peut nous tuer. Enfin, l'espace, c'est clair.
Ouais.
Donc, on se porte secours, voilà. Mais on à partir du moment où l'un, il va commencer à exploiter tel truc sur la Lune, l'autre, il va exploiter tel truc-là.
Oui, c'est sûr que si on a les moyens d'être indépendants, est-ce que ça va continuer la collaboration.
On verra si la solidarité, tu vois, quand les enjeux économiques, ils arriveront derrière.
Oui, bien sûr.
J'ai juste finir ce que j'avais commencé tout à l'heure, parce que je me suis un peu perdu. Mais disons, il va falloir modifier les statuts en disant qu'il n'y avait que des cosmonautes ou des vaisseaux. Mais voilà, avec des gens comme Minsk ou tout ça, là, on va avoir des touristes.
Ouais.
Et donc là, il va falloir créer un statut aussi particulier pour ces gens qui ne sont pas des hommes d'équipage, qui sont pas mais qui deviennent des touristes. Or ça, jusqu'à présent, ça n'a jamais été envisagé dans le cadre du droit de l'espace, vu que ça n'existait pas.
Bien sûr.
Il y avait un petit point. Ouais, Pierrick, tu voulais dire un truc.
Il y avait aussi cette histoire de ligne de Kármán.
Oui, alors la ligne de Kármán, c'est la limite arbitraire entre l'atmosphère terrestre et l'espace, qui a un fondement quand même un peu physique, qui est qu'à partir d'une certaine pression qui est trop basse, un avion ne peut plus voler, peu importe l'avion, peu importe la taille des ailes, la propulsion, tout ça. Et donc on dit qu'à partir de là, c'est l'espace. Donc ça a été défini un peu arbitrairement à 100 km.
Ça, c'est officiel.
Ouais.
C'est la ligne officielle.
Oui, c'est ça. Et parce que toujours en droit, un État est responsable et tout ce qui est au-dessus de l'État, au-dessus du sol, lui appartient. Et du coup, par exemple, t'es russe, tu veux passer avec un avion de chasse au-dessus des États-Unis, t'es emmerdé.
Ouais.
Donc à partir de quelle altitude, t'es plus considéré dans les États-Unis, dans l'espace aérien des États-Unis.
Ouais.
Et donc ça a été fixé à 100 km, ça convient à peu près à tout le monde, sauf aux États-Unis et justement aux nouveaux super riches, genre Bezos ou Branson, c'est l'autre, qui sont allés dans l'espace avec leur propre fusée. Enfin, et non, justement, qui ne sont pas allés dans l'espace puisqu'ils ne sont pas allés à 100 km. Et donc, ils essayent de négocier pour que la ligne de Kármán, ça ne soit plus 100 km, mais 50 miles, ce qui correspond à 80 km. Ah oui, et du coup, ils auraient le statut d'astronaute, qu'ils n'ont pas pour l'instant, parce qu'ils ne sont pas allés dans l'espace.
Voilà, c'est un peu une guerre d'ego.
Les mecs sont en train de saouler les institutions internationales juste parce que pour pouvoir dire dans les soirées, moi, je suis allé dans l'espace.
C'est ça.
Ouais. C'est vachement intéressant.
Ils le disent déjà, mais officiellement, ils ne sont pas reconnus comme tels, et donc ils ne sont pas contents. Et je voulais rajouter, je ne sais plus, ça me reviendra. Okay. Plus tard.
Bon. Alors moi, sur ce, il y a quand même un petit truc dont je voulais vous parler là, dans ce droit insolite là. Oui, ils font un article, alors un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est voilà le genre de problèmes qui peuvent se poser. Et là, ils prennent le cas des sites en fait d'alunissage. Donc, ils disent qu'en fait, suite à toutes les missions qu'on a envoyées sur la Lune, il y a à peu près 100 tonnes de bazar humain qui traînent sur la Lune.
Ouais.
Et parmi ces 100 tonnes, il y a en gros des sacs à caca, quoi, des cosmonautes. Ils ne les ont pas ramenés avec eux. Trucs sont là-haut.
Ah ouais, c'était du poids inutile.
Ouais, mais... Donc déjà, tu vois la mentalité, c'est-à-dire que tu vas sur la Lune... Évidemment, les cosmonautes, ils vont aux chiottes, voilà. Et donc, il y a des rejets.
Et ils les ont enterrés,
et,
non
et ils, ça, les laissent, quoi. Ils les laissent. Déjà, moi, je trouve ça frappant. Mais passons. Et donc, là, d'un point de vue juridique, c'est là que je trouvais ça rigolo. Il y a deux logiques qui vont se contredire. D'un côté, ces sites d'alunissage ne le sont pas encore, mais c'est en projet, doivent être classés patrimoine de l'humanité.
Ah ouais.
Donc du coup protégé. En tant que tel ultra protégé où tu dois exactement
donner l'Armstrong.
Et d'un autre côté, il y a quand même ce problème de dire que c'est ça caca c'est potentiellement une pollution biologique sur la Lune, et là en fait c'est hyper sérieux en réalité. Je trouve ça hallucinant qu'ils laissent ça, quoi. Enfin bon, passons. Et donc, du coup, question, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? La question que le juriste va se poser. Est-ce que ce qui prévaut, c'est le classement au patrimoine de l'humanité, et donc, il ne faut absolument pas toucher ce site, y compris les sacs à caca, qui sont des vestiges de ce qui s'est passé là, à l'époque. Ou le simple fait d'aller sur le site, ça va le perturber, puisque pour aller chercher les sacs à caca, il va bien falloir y aller. Ouais. Donc, tu vas laisser des nouvelles empreintes, etc. Donc, tu vas détériorer ce site. Ou alors, donc on les laisse là au risque de polluer la Lune. Ouais. Ou alors, non, on estime que c'est plus important de nettoyer et on enlève tout ça.
Les mecs qui vont être payés.
Donc évidemment, il n'y a pas de réponse. Hein, c'est juste qu'ils amènent les éléments de droit qui vont aller d'un côté ou de l'autre.
Et moi, je trouve que c'est une bonne question. Enfin, je n'aurais pas d'avis tranché à vous donner tout de suite.
Je comprends qu'on les ait laissés, une histoire de poids, de carburant. Je peux comprendre.
Côté technique.
Après, c'est sûr que c'est une pollution énorme. Plein de bactéries, de virus, de machin. S'il y a le moindre vie sur la Lune, elle va se faire défoncer. On ne sait pas ce qui peut se passer.
En fait, on n'a aucune idée de ce que ça peut donner. C'est-à-dire que tu peux très bien imaginer qu'une partie des bactéries se mette à survivre sur la Lune. Pourquoi pas, tu vois, je veux dire, ils se mettent à se reproduire. Tu peux, par ce genre de truc, essaimer la vie de façon complètement artificielle. Bah, évidemment, on n'a aucune idée de l'impact que ça peut avoir. Et de toute façon, si ça en a un, si c'est des bactéries qui commencent à se développer maintenant, nous, on sera morts avant qu'il se passe grand-chose d'autre sur la Lune. Quoi.
Oui.
Pas spécialement plus de commentaires à faire. Ça en amène tellement, en fait. Voilà pour cette petite revue du droit insolite.
J'ai une petite anecdote en termes de droit. C'est plus dans l'espace, c'est sur Terre, mais c'est lié. Il y a un village dans le sud de la France. Il y avait eu un scandale d'OVNI, des gens qui disaient avoir vu un OVNI se poser, tout ça, ça avait fait grand bruit, puis après on avait compris que c'était un canular. Mais entre-temps, la mairie a signé un arrêté municipal qui interdit aux ovnis de se poser sur le territoire de la commune.
On n'est jamais trop prudent.
Voilà. Pour dire, voilà, il n'a pas eu, mais il n'y en aura même jamais. Ce sera interdit.
C'est interdit. Et sinon, c'est une contravention de classe 4.
Est-ce qu'ils ont le permis à point?
Aïe, aïe, aïe.
Okay. Je ne sais comme plus quoi, le nom, c'est pas très loin d'ici, parce que c'est dans les champs
Provence,
de Lavande.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Comme quoi, on en arrive à des trucs hallucinants. Quoi.
Et avec le droit, enfin,
c'est quand même.
Il y a toujours des trucs.
Ouais. C'est incroyable. Réécouter Carl Sagan, ça fera du bien. Ouais,
un peu de perspective.
Ouais.
Ouais. Yes.
Ok, et ben, on va arrêter là cette émission pour cette fois. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura intéressé. Et puis, on vous donne rendez-vous le 23 juillet à Marignac et la semaine prochaine sur les ondes de Herdivois. Bonne semaine.
Ciao.